Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, de 13h à 14h, vous montrez qu'il y a en France des talents qui ne demandent qu'à se faire connaître. Avec la tempête Gabrielle, on a eu envie de vous montrer qu'on peut s'équiper français pour se réchauffer. Gants, bonnets et pulls tricolores sont à l'honneur aujourd'hui. Elle existe depuis 1904 dans la Loire. Elle se transmet de génération en génération. Linder, tisseur et créateur, est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis troquer son logement HLM contre un plus grand ou un plus petit, c'est possible à Paris. Une plateforme d'échange a vu le jour. C'est la solution sélectionnée au Trophée de l'Avenir d'Europe 1. C'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour sur Europe 1. Vous avez tous évidemment, avec l'arrivée du froid, investi dans des gants, un pull chaud et un bonnet. Alors venez nous dire, Anissa, comment vous les avez choisis?
Bah oui, vous êtes peut-être vous aussi adepte de la technique de l'oignon, vous savez, couche par couche, hein, ça c'est important. Bien, venez nous donner vos bons plans pour avoir chaud cet hiver sur Europe 1. C'est le 39-21, c'est le standard bien sûr. Et puis on vous lit également sur Twitter vos questions, vos réactions, vos témoignages avec le hashtag Europe 1.
Et pour accueillir nos invités, Elisabeth Assayag est là, comme chaque jour, bonjour.
Chaudement vêtu, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Évidemment, et une nouvelle coach nous rejoint dans l'aventure, c'est Bertille Burel, fondatrice et présidente de Wonderbox. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue dans l'équipe de La France qui bouge. Cette France, elle grelotte à la France en ce moment et ça ne va pas s'arranger avec Gabriel hein, qui arrive dès cet après-midi. Alors pour se protéger du froid, il faut évidemment bien se couvrir et ça commence tout simplement par le pull. Bonjour Gonzague Lablancherie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur des pulls Au Juste. C'est tout récent, hein. Je crois que vous vous êtes lancé en octobre 2018.
On s'est lancé en octobre 2018. Je tiens à préciser que je suis associée avec ma sœur.
Avec votre sœur. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, tous les deux, de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale?
Alors l'aventure entrepreneuriale, elle remonte déjà il y a 5 ans avec un oncle. On a pris des chemins différents après cette aventure qui n'a pas été fructifiée et puissante. J'ai fait une école de commerce et en master entrepreneuriat, j'ai repris ce projet qui avait 5 ans. Et j'ai demandé à ma sœur, graphiste, si elle souhaitait s'associer avec moi, parce qu'elle est graphiste et designer et donc elle pouvait m'aider dans toute une identité visuelle et graphique du projet.
Et vous aviez déjà le pull en tête ?
Pas du tout.
Pas
à l'origine, on s'était dit on va faire des chemises, des t-shirts. Ça ne nous satisfaisait pas. On a préféré vraiment travailler quelque chose de plus compliqué, plus artisanal, presque artisanal, pardon. Et on a rencontré des super personnes, donc notre filature et notre tricoteur, qui nous ont aiguillés dans le chemin de fabriquer des pulls, vraiment un produit sophistiqué.
Alors justement, ces pulls, ils sont éco-responsables parce qu'ils sont recyclés. C'est-à-dire que vous allez à la filature chercher... de la matière première.
Exactement.
Et vous faites tricoter vos pulls ici en France.
On fait tricoter à Rouen, dans un atelier qui s'appelle Tricorem.
Spécialiste de la maille.
Spécialiste de la maille depuis 20-25 ans. Ils ont de très beaux clients, donc ça nous a rassurés dans leur savoir-faire. Et on était ravis de travailler avec eux, puisqu'ils s'autorisent à accepter ou refuser des clients. Et à partir de ce moment-là, quand on leur a présenté le nôtre, on a senti qu'ils étaient emballés par le projet. On avait plusieurs modèles, ils nous ont sélectionné des modèles qu'ils trouvaient plus intéressants que d'autres. Et on a cheminé ensemble vers la confection de 3 pulls qui sont sortis depuis octobre.
3 modèles. Hein.
3 modèles, oui.
Pour l'instant, ce sont les modèles d'hiver. Vous allez en refabriquer, je crois, en février.
Alors là, dans une semaine, on reçoit donc tout le réassort de notre e-shop, puisqu'on est exclusivement digital, sur le digital. Et on a aussi une collection été qui va arriver, on espère, si tout se passe bien, fin mars, début avril. Donc là, on partirait sur du coton recyclé.
L'histoire familiale, elle n'est pas pour rien dans tout ça, hein, parce que vous êtes d'une famille de 4 enfants.
Exactement.
Et vous aviez l'habitude, finalement, de porter les pulls du grand frère ou de la grande sœur, c'est ça ?
Avec Jérène, on est les deux aînés. Du coup, on s'est partagé les premiers pulls et après, c'est les autres qui les ont pris. Et on est aussi une grande famille avec des cousins, etc. Et ça a toujours été un peu le cheminement de la famille de se passer, que ce soit les pulls ou les autres vêtements. Hein. Mais ça part un peu de là aussi.
Que dit la coach, justement, de cette aventure ? Ça vous plaît, Bertille ?
Alors, moi, je trouve ça génial. Et je dis bravo d'entreprendre d'abord si jeune, parce que je crois que vous avez 27 ans. Donc, c'est super. Bravo, ensuite, de penser à une entreprise qui est éthique et généreuse, parce que tout ce fil qu'on récupère, c'est des vieux pulls qu'on récupère et qu'on réutilise.
Exactement.
Donc je trouve ça génial. J'ai un petit conseil, mettez un énorme drapeau français sur votre site web.
D'accord.
Parce qu'on voit pas très bien que,
oui,
que
c'est
fait en
français.
France, c'est 100%
ouais, de la
français.
Filature, au tricotage, tout est français.
Et je trouve ça très très bien. Enfin, j'ai des amis qui sont un peu dans la même approche de du recyclage et de la transparence. Un site qui marche bien, qui s'appelle Jules et Jen aussi.
Qu'on connaît.
Enfin voilà, je vous souhaite le même succès que.
Je vous remercie.
Elisabeth, juste, quel est le prix de votre
pull? Alors, le modèle que je porte, c'est un 100%, 95% laine, un alliage.
On n'a pas dit, Gonzague, ce sont des pulls mixtes.
C'est des pulls mixtes, oui, pardon, j'ai même oublié de le dire.
Bah,
le pull que je porte est à 129 euros. Exactement. En fait, on travaille des coupes du XXS au XL. Et une femme qui va faire un M ou un S, il faudra qu'elle prenne une taille en dessous chez nous. Pour avoir sa taille.
Pour que ça puisse aller à l'homme et à la femme.
Voilà, exactement.
Et 129 euros le pull.
129 euros pour celui-là qui est en 95%
français,
laine. Et on commence à 99 euros. En fait, on a des alliages de matières suivant les modèles. Plus un modèle est composé d'une matière noble, plus son prix sera élevé.
Et alors, vous dites que vos coûts de fabrication sont deux fois moins importants. C'est ça le calcul à peu près pour par rapport à une marque traditionnelle. Enfin, le cheminement est différent quand on prend une marque
alors
par rapport...
Alors non, c'est pas nos coûts. C'est qu'on ne distribue pas en boutique physique. Faut savoir que quand vous achetez un pull en boutique physique, vous allez payer un la marge du fabricant et deux la marge du distributeur.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
Nous, il n'y a pas d'intermédiaire. On est exclusivement sur Internet, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait des distributeurs en plus de notre site, donc qui eux prennent des marges moins importantes puisqu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de boutique, et ensuite d'avoir nous-mêmes notre propre boutique.
On parlait des matières. Elisabeth, justement, il y a une matière qui est extrêmement chaude, hein, qui est très connue, c'est le cachemire. C'est un succès qui ne s'essouffle pas, manifestement,
ouais,
même au contraire.
Au contraire, la consommation de cachemire a explosé. C'est un marché porteur hein, qui, aujourd'hui, représente plus de 4 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire que ça représente environ 7% du marché du luxe, hein, parce que c'est quand même un certain prix d'acheter du cachemire. Les meilleures fibres se font de plus en plus rares et à cause du réchauffement climatique, ça impacte aussi sur la qualité du cachemire. Hein. Plus l'hiver est très très froid, plus la laine produite par les chèvres sera de bonne qualité, donc ce sera de plus en plus cher. On a des acteurs français hein,
oui.
qui se démarquent. Hein. On a par exemple Kuchten, une marque française, Irkus, 100% française, ou encore la maison Montagu.
Vous avez du cachemire
alors,
justement
c'est
qui vous
tuyaux.
Arrive
oui. C'est possible de recycler le cachemire parce qu'en fait c'est une matière qui perd beaucoup. Je m'avance peut-être hein, parce que je ne maîtrise pas encore entièrement, mais on récupérerait le surplus. Qui tombe à la fabrication des pulls en cachemire. On a rencontré des gens qui étaient spécialisés là-dedans et on a eu des touches sur des filatures spécialisées dans le cachemire recyclé.
Donc peut-être sur
voilà,
la collection hiver 2019.
Sur la collection hiver 2019, je ne m'avance pas plus.
On reste ensemble, on continue à parler de l'équipement nécessaire pour faire face au froid aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Et vous le savez, hein, ça va de soi, en cas de grand froid, il faut penser à couvrir les extrémités, à commencer par la tête et pourquoi pas avec Blanc Bonnet. A tout de suite.
Les températures sont en chute libre, mais heureusement, vous écoutez La France Bouge et vous allez donc pouvoir bien vous équiper puisqu'aujourd'hui, on parle des bons accessoires pour se réchauffer. Et bien sûr, ils sont 100% français grâce à vos invités, Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas, on attend vos réactions. 39-21, c'est le standard. Et puis, les réseaux sociaux, hashtag Europe 1.
Quand les températures dégringolent, il faut penser à protéger sa tête. Et oui, une grande partie de la chaleur du corps part par là. Ça a l'air tout bête à dire, mais c'est comme ça. La protéger s'impose. Bonjour Corinne Gaudic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice de la marque Blanc Bonnet et présidente des ateliers PRH. Alors, je dis les deux en même temps parce que c'est indissociable. Pour bien comprendre l'histoire, il faut dire que vous avez eu envie de devenir chef d'entreprise après avoir fait votre carrière chez Vuitton. Vous étiez acheteuse.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous lancer? Racontez-moi.
Écoutez, une opportunité, une rencontre et puis une fin de carrière chez Vuitton avec un gros projet autour du textile.
Oui.
Et notamment la broderie. Et puis une première possibilité de reprendre une entreprise de broderie.
De broderie,
Paris.
Oui.
Exactement. Une rencontre. Et puis ensuite, justement, cette information que cette entreprise, les ateliers PRH, allait certainement disparaître.
Et là, vous vous dites, c'est pas possible, on peut pas laisser passer cette opportunité.
Oui, et en plus, une belle opportunité de pouvoir compléter notre parc de broderie, puisque les ateliers PRH, nous les connaissions par la broderie. Et puis, une fois sur place, ben là, je me suis rendu compte que c'était magnifique. Je retrouvais les gestes, les savoir-faire que j'avais pu rencontrer chez Louis Vuitton en maroquinerie, en joaillerie, où il y avait différents métiers, le tissage, le tricotage, la confection.
Et tout à l'intérieur, la marque Blanc Bonnet.
Et là, à l'intérieur, cette marque Blanc Bonnet. Là, je me suis dit, mon univers produit que je retrouve. Et bingo, on est parti et on s'est positionné pour reprendre cette entreprise.
Oui, positionné parce qu'il a fallu passer devant le tribunal.
Hein, exactement.
Et vous avez été choisi comme repreneur. Vous reprenez 19 personnes, c'est ça, sur les 40 qui travaillaient?
Oui, tout à fait. On a pu reprendre que 19 en fin 2015. Et aujourd'hui, nous sommes 30 personnes.
Oui, vous avez réembauché entre-temps. Vous avez développé justement cette activité tricotage?
Oui. On a eu la chance aussi d'avoir dans notre panel de clients, notamment le site français, qui, avec l'opération Bouge ton pompon, nous permet aussi de bien communiquer sur le bonnet et d'amener aussi ce carnet de commandes. Et donc, petit à petit, on a pu communiquer via notre marque et avoir de nouvelles marques de bonnets et puis implanter de plus en plus ce blanc bonnet qui avant était exclusivement vendu dans les boutiques de stations en sport d'hiver. Mais on sait tous qu'aujourd'hui, le bonnet n'est plus acheté uniquement qu'en sport d'hiver. Et donc, on l'a implanté via notre réseau d'agents commerciaux. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir dire qu'on a plus de 150 revendeurs. Et on vend de Brest à Nice, toujours en passant aussi par les stations, mais également à Paris.
Vous avez fait une première levée de fonds, je crois, en fin d'année dernière, en 2018.
Oui, l'année 2018 a été très riche pour nous.
Pour faire quoi?
Alors, cette levée de fonds, elle a été faite déjà pour nous étendre aussi et potentiellement racheter d'autres entreprises, en difficulté ou pas, pour continuer à développer notre savoir-faire, mais aussi à pouvoir compléter notre outil industriel.
Oui, vous avez investi dans de nouvelles machines?
On a déjà réparé. Parce qu'on a récupéré un parc industriel dans son état. C'est très onéreux à réparer. Et on a investi dans des machines à broderie, à tricoter. Et on a le projet, l'ambition de pouvoir réintroduire le tissage de la serviette éponge.
Oui, ça c'est pour quand? 2019
2019-2020. Donc là, c'est vraiment un projet où on
est en train de... Parce que c'est quelque chose qui a totalement disparu en France?
Non, il n'a pas totalement disparu en France, mais il est exclusivement aujourd'hui réservé aux maisons du luxe.
Dans les mêmes ateliers que ceux
dans
qui font
ateliers
des bonnets?
Exactement. On amènerait un quatrième savoir-faire, toujours autour de l'ADN, puisque les ateliers PRH sont tisseurs depuis 1871, mais toujours à Saint-Didier-en-Velay, oui.
Que dit notre coach, Bertil Burel?
Oui, j'ai encore une fois bravo.
Bah oui.
Parce que bravo d'avoir.
On fait renaître des entreprises.
Et puis surtout dans le tissage où on a l'impression qu'il n'y a plus une entreprise en France, eh bien, ce n'est pas vrai. Il y en a.
Exactement.
Il y en a qui arrivent à vendre très bien et à réussir. Je me demandais justement si vous vendiez à l'étranger, si vous étiez déjà un peu tourné vers l'export ou si le marché français.
Alors aujourd'hui, notre plus grande part est en effet sur le marché français. Nous sommes distribués au Canada, autour d'une communauté française. Et donc, c'est un des projets à l'avenir, c'est de pouvoir étendre notre réseau à l'étranger. Le Made in France et notre certification Origine France Garantie, qui confirme en effet que notre bonnet est bien français, est tout à fait, attendu à l'étranger.
Bonnet totalement français, 100% français. La production de bonnets est faite ici, évidemment.
Oui.
Le fil vient de France aussi. Comment est-ce
Alors,
que vous faites
on a encore
pour sélectionner?
On a nos filatures qui sont en Europe. Donc là, on est en train de chercher en effet des filatures en France pour qu'on soit à 100% français. Mais aujourd'hui, nos produits sont à 90% d'origine France garantie.
Et je crois que vous attendez un label, peut-être entreprise du patrimoine vivant.
Oui,
c'est
exactement,
ça, c'est en cours.
Parce que voilà, et l'entreprise du patrimoine vivant, c'est au bout de trois exercices. Et donc, nous sommes arrivés au bout de nos trois années d'entreprise. Donc, on va pouvoir concourir pour avoir ce label entreprise du patrimoine vivant.
Elisabeth?
Il y a des collections dans les bonnets. J'ai l'impression que les bonnets, ça se ressemble d'année en année.
Oui, on a des collections, oui. Puisque nous, on a toute une collection qui peut être vendue en bord de mer. Donc, on a des bonnets en 100% coton. Et puis après, on a des collections très urbaines. Et puis, pour l'hiver,
féminine, vous changez, masculine. Vous vous diversifiez à chaque saison.
Exactement. On a notre collection intemporelle où les produits que les clients
se suivent
et nos modèles iconiques. Et tous les ans, on a une nouvelle collection qui sort avec nos deux stylistes.
Et vous avez évoqué tout à l'heure le slip français, l'opération oui. Bouge ton pompon. Guillaume Gibault, je crois que ça vous fait un point commun avec Gonzague qui est juste à côté de vous. Parce que c'est un peu Guillaume Gibault, qu'on salue d'ailleurs, qui est un autre coach ici, qui vous a inspiré, je crois.
En fait, il inspire quand même beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le textile. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du Made in France où pendant 3-4 minutes, j'ai discuté avec lui sur le live de leur entreprise. Et honnêtement, oui, ça fait du bien d'avoir des jeunes entrepreneurs enfin des jeunes maintenant, il est plus âgé que nous, mais que moi, pardon.
Vous allez nous inspirer. Vexer, attention.
Et en fait, on a un peu le même parcours. J'étais dans un grand groupe avant, j'étais chez Carrefour, je ne sais pas si on peut le citer. Ouais. Et j'avais aucun plaisir à faire mon métier et j'ai été content de reprendre. Et en vrai, oui, Guillaume Gibault, c'est ce genre de mentor qui nous inspire, oui.
Cette dimension mentor, c'est quelque chose qui vous parle, Bertil ?
Complètement, et je trouve ça très très inspirant de voir à quel point aujourd'hui il y a à la fois des entrepreneurs qui sont soucieux en France de créer des entreprises, de vendre des produits éthiques, recyclés, fabriqués en France. Et tout ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir sur la création et l'emploi en France. Parce que si on voit que même les nanas, on s'y met.
J'espère bien.
on est sauvés.
Oui, vous allez voir qu'il y en a beaucoup des femmes, effectivement, dans l'entreprise française. On continue à parler de cet équipement français contre le froid aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et pour avoir la panoplie complète, il faut les gants. Une entreprise les fait encore à l'ancienne depuis 4 générations. C'est Agnelle. A tout de suite sur Europe 1.
Quels sont les bons accessoires pour se réchauffer face à la baisse des températures? Eh bien, c'est la question que vous posez à vos invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin. Vous pouvez participer à cette émission, bien sûr. Ces accessoires, ils sont 100% français. Vos témoignages, vos réactions, c'est au 3921, le standard d'Europe 1, Raphaël.
Toujours avec notre coach aujourd'hui, c'est la fondatrice et présidente de Wonderbox, Bertil Burel, et avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne. Vous serez d'accord que pour pouvoir bien résister aux températures hivernales, il faut penser à tout, y compris aux mains. Bonjour Sophie Grégoire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente d'Agnelle, que votre arrière-grand-père a créé en 1937. Ça fait donc, si j'ai bien compté, 4 générations.
Vous êtes 81 ans.
Ouais. Installé à Saint-Julien.
À Saint-Julien, donc à côté de Limoges. Mon arrière-grand-père donc, avait créé cette entreprise pour son fils Cooper, qui en 39 part à la guerre. Et puis ma grand-mère a repris l'entreprise à ce moment-là. Et après, c'est passé de femme en femme, puisque ma mère lui a succédé. Et maman a vendu en 99 l'entreprise à un grand groupe américain. Moi, j'étais assez contente que l'entreprise puisse perdurer. Et badaboum, il y a eu quelques petits problèmes dans cette entreprise américaine. Et donc,
ils ont voulu
j'ai
vendre.
Dû, voilà. Et donc, à ce moment-là, c'était quasiment le 10 septembre 2001. Et donc, les Twin Towers, chaos dans le monde. Et donc, il a fallu que je reprenne l'entreprise.
Ou vous avez eu
envie? Oui, j'étais ravie, en fait.
Vous ne pouviez pas la laisser.
Non, j'étais ravie.
Bon. Donc vous arrivez, alors ce que vous ne dites pas, c'est que Saint-Julien, évidemment, c'est un des, à l'époque, hein, déjà en 1937, c'est déjà un des centres de la ganterie en France.
Oui, il y avait trois centres,
Millau,
Grenoble, parce qu'il y avait des mégisseries, la qualité de l'eau était importante pour la tannerie et la mégisserie.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, je continue à acheter tout mon cuir chez mon voisin, la mégisserie Colombier, donc à Saint-Julien.
Alors, on a quelques-uns de vos modèles hein, qui sont ici avec nous. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez les voir. Anissa va se faire, je pense, un plaisir de
bien
vous les
sûr.
Montrer. Les modèles sont magnifiques. Vous pouvez nous en parler peut-être, celui-ci par exemple.
Alors, celui-ci est extraordinaire parce qu'il a été créé. Donc, en fait, on a une boutique et un showroom rue Dufault, donc à Paris. Et Jean-Charles de Castelbajac oui. dessine à la craie sur tous les murs de Paris. Et au bout de la rue, il y avait un ange. Et on a fait une photo Instagram avec un gant, avec des patchwork. Et donc, on l'a posté sur Instagram. Et il nous a répondu, Agnelle fait des gants comme on écrit des poèmes. Et donc, super, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vu. Donc, on se rencontre et on lui amène un gant coupé, donc qui est un peu tout blanc. Et quand on présente ça à Monsieur de Castelbajac, il prend des stylos et il dessine.
Oui.
Et donc, il fait ce visage de femme. Et donc, nous, on l'a réinterprété pour en faire une paire de gants qui est passée d'ailleurs au Resto du Cœur et qui a une histoire assez incroyable.
Combien de gants vous produisez par an?
Alors, on fabrique entre 80 et 100 000 paires de gants par an.
Vous travaillez en France, à l'étranger aussi, beaucoup,
alors,
avec le luxe?
Oui, on travaille, on a une activité de sous-traitance pour les grands groupes du luxe, dont Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy, et une activité sous notre marque, Agnelle, deux usines, deux ateliers, une donc à Saint-Junien et un autre aux Philippines, où on a recréé exactement le même processus de fabrication.
Alors les Philippines, c'est pas un hasard hein, d'ailleurs. Il y a une raison pour laquelle vous avez voulu travailler avec les Philippines.
Alors écoutez, j'avais 19 ans, je parlais pas anglais, il y avait un coup d'état aux Philippines, c'était un peu étrange. J'y suis allée parce qu'il y avait une tradition gantière, de manière un peu étrange. Parce que voilà, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de marché intérieur. Mais c'était une histoire d'amour entre un gantier de Grenoble, je crois, et une Philippine. Et donc, il y avait une première usine. Et donc, j'ai commencé à travailler et puis avec eux. Et c'est formidable parce que les deux se ne sont jamais opposés. On n'a jamais pris des machines des uns pour les amener aux autres. Les deux s'entendent bien, se respectent. Et c'est vraiment un grand bonheur.
Elisabeth, le marché des gants, il se porte comment ?
Ça va plutôt bien. Alors d'abord, les gants, ce sont des accessoires hein, de prêt-à-porter, des accessoires de mode. Et ils représentent tout de même hein, 11% des dépenses des ménages dans la catégorie habillement. Donc on dépense pour les gants. La concurrence, elle est immense. Et pour se différencier, les acteurs du secteur misent, comme vous, chez Agnelle, ils misent sur le haut de gamme, sur le gant un peu plus élaboré.
Agnelle, qui est, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai envie de dire, ça va de soi, qui a le label entreprise du patrimoine vivant.
Oui, tout à fait.
Que dit notre coach, Bertil ?
Alors, bravo, c'est magnifique. J'adore cette histoire transgénérationnelle oui. avec le passage d'entreprise de mère en fille. De ce que j'ai compris, en plus, ça va continuer.
Oui, ma fille s'est tout à fait inscrite dans
Alix,
c'est tout à fait inscrite dans cette lignée.
Et est-ce que c'est à un moment, c'est pas un poids de naître dans une famille comme ça où on a on hérite d'une entreprise?
Alors ça s'est passé à chaque fois naturellement et par accident. Ma grand-mère donc est morte assez jeune, donc maman qui avait épousé mon père. Qui est péruvien, donc elle est rentrée de Lima pour reprendre l'entreprise à un moment pas facile, dans les années 65, donc libération de la femme, moins de gants, moins de chapeaux, moins de corsets, donc un moment difficile, donc c'était un peu par accident. Et moi, parce que j'étais pas très bonne à l'école et qu'elle avait besoin de. Et puis elle avait très bien senti que voilà, j'étais meilleure dans le concret que dans les études.
On reste ensemble, on continue à débattre aujourd'hui et à parler de cet équipement français contre le froid sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on vous attend, vous êtes les bienvenus, c'est votre émission 39-21. Venez nous rejoindre pour nous dire si vous achetez français pour combattre les températures hivernales. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, nous découvrons les accessoires pour se tenir chaud pendant cet hiver. Vous pouvez réagir à cette émission, il y a déjà quelques tweets hein, avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler le standard, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est le 3921.
Nous sommes avec Bertil Burel, fondatrice et présidente de Wonderboss, qui est notre coach aujourd'hui, toujours avec Elisabeth Assayag et nos invités Gonzague Lablancherie, cofondateur des pulls Au Juste, Corinne Godic, présidente des ateliers Perrache et directrice de la marque Blanc Bonnet, et Sophie Grégoire, présidente d'Agnelle, qui est gantier depuis 1937. Je crois que j'avais une question pour vous, parce qu'on en parlait hors antenne, mais un gant comme ça, ça se fabrique en combien de temps ?
Alors, la coupe du gant, déjà, ce sont des peaux très particulières oui. en agneau, qui sont très, très souples, très résistantes.
C'est fait à la main ?
Et c'est fait complètement à la main. Donc, pour le mettre à la taille, c'est quelque chose un peu difficile à faire passer, mais c'est une demi-heure de travail pour couper la paire de gants, donc, et les fourchettes, qui sont les entre-doigts, et le pouce. Tout est travaillé dans le même sens, et ça, c'est vraiment très artisanal. Après, vous avez l'étape de la couture. Alors, quand ce sont des coups humains, c'est 3-4 heures pour une paire de gants. Quand c'est fait à la machine, c'est aussi une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce sont des vieilles machines qu'on sans guide, qui se font des tout petits points et qu'on bichonne, puisqu'en fait, les nouvelles ne sont pas aussi bien. Et puis après, quand on double, on accroche la soie à la main, au bout des doigts, et tout au bord. Et là aussi, c'est une demi-heure. Donc,
c'est un gros travail
qui ne se voit pas forcément. Mais on a vraiment besoin de tout ce temps pour faire une deuxième peau.
Sur le site de agnelle.fr, il y a un magnifique film qui montre tout ce processus de fabrication du gant.
Est-ce qu'on a des questions, Anissa?
Oui. Alors, oui, on a d'abord une question de notre réalisateur, qui est un véritable geek et qui voulait savoir si Aniel faisait des gants tactiles pour se servir de son téléphone portable en ayant les mains au chaud.
Oui, oui, oui. Alors, on a en effet des gants sur lesquels on ajoute une petite pièce en cuir qui est conductrice. Et donc, on peut les utiliser. Alors, on ne peut pas... écrire très très vite, mais en tout cas on peut prendre des appels et tout
ça. On peut décrocher. Oui. Et puis alors on a un tweet de Jean-Marc qui nous dit « Pour lutter contre le froid, sous-vêtements d'amarre, plus polaire respirante, plus doudoune, plus bonnet blanc bonnet, plus chaussures Gore-Tex, deux paires de bas, je suis prêt à j'oublier l'essentiel, la chaleur de vivre. »
Ah oui, ça il a bien raison. Dites-moi, il n'a pas prononcé le mot doudoune, notre ami Jean-Marc. Alors si. Justement, ça aussi c'est important, Elisabeth, c'est un gros marché,
mais
la doudoune.
Oui. Mais oui, est-ce que vous vous souvenez de votre réaction il y a quelques années à la vue de ces vestes boudin?
Ouais, c'est dire, hein. C'était moche.
Bon, c'était moche. Ben, aujourd'hui, c'est devenu indispensable et c'est l'Italien Moncler qui a su rendre ce vêtement tendance à la ville en créant des doudounes de couleur. Il y a une autre marque japonaise qui n'a rien à voir avec les sports d'hiver, qui a beaucoup contribué à l'émergence des doudounes. C'est Uniqlo, avec des doudounes prix moyen 60 euros. Donc, ils ont misé énormément sur le volume, la vente de volume. Et le phénomène n'a pas échappé aux Français Pyrenex.
Alors justement, une fois qu'on a fait le tour de ces indispensables, moi j'ai envie de vous demander à tous les trois, qui avaient trois histoires de famille, hein, si j'ose dire, comment est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent, quels conseils vous leur donneriez si demain ils voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que c'est un secteur qui est encore porteur? Parce que souvent on entend dire le textile, la mode, c'est difficile en France, c'est compliqué, on ne peut pas se lancer. Est-ce que vous, Gonzague, vous y avez cru vraiment en démarrant cette histoire?
Oui. Parce que c'est un secteur concurrentiel. Dans le textile, il y a énormément de marques qui proposent beaucoup, souvent la même chose. Ce que j'ai vraiment cherché à faire avec Violaine, c'est de trouver une valeur ajoutée, mais pas qu'une, parce que pour moi, le Made in France, c'est une belle valeur ajoutée, mais elle n'est pas suffisante. Donc on a voulu aller chercher plus loin avec le recyclé, qui aujourd'hui est dans la mouvance aussi du temps. On mange différemment, on consomme totalement différemment. Et pour moi, vraiment, il faut prendre le temps de proposer un beau produit, parce que le consommateur va rechercher le beau produit avant tout, avant le prix, avant votre valeur ajoutée. Il faut avoir vraiment une triplette.
Vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui? Vous êtes tous, alors, les deux, évidemment,
on
à
est
la
tous
tête
les deux,
des
mais
Vélogistes.
Après, la filature, je pense qu'il y a une trentaine de personnes. Je dirais que dans l'usine de tricotage, il y a 18 femmes, je crois que c'est exactement ça, plus une modéliste, une directrice. On va dire qu'il y a une quarantaine de personnes en tout, dans une cinquantaine de personnes.
Ah oui, ça fait travailler.
Ça
donc
fait travailler du monde. Ouais. Et c'est la première année cette année que le textile emploie.
Eh oui, effectivement. Corinne Gothic, même question et même constat, je suppose.
Oui, tout à fait. Alors, nous, notre histoire est un peu différente parce que nous sommes partis sur des fondations. Enfin, voilà, il y avait déjà
la compris, c'était déjà établi, mais il fallait la remonter.
Il fallait la remonter, mais c'était clair que aujourd'hui, dans l'univers du Made in France, la transparence, justement, c'est ce que cherche aussi le consommateur. Il a besoin d'avoir une histoire, de connaître le savoir-faire, d'avoir un juste prix aussi. Puisque le Made in France, on est sur un circuit court, on est ici sur un produit à un prix juste. Certes, on ne pratique pas des soldes puisqu'on ne marche pas non plus à outrance. Et donc aujourd'hui, c'est le consommateur a besoin de savoir l'histoire, comment c'est fabriqué.
Sophie Grégoire, c'est pareil pour vous? Vous avez le même sentiment qu'il y a encore des choses à faire dans ce secteur?
Oui, je crois qu'on est en ce moment dans une période de changement. Donc les choses ne s'opposent pas. D'ailleurs, on peut avoir des grandes marques de luxe qui font rêver par certains côtés. Il y a des petites marques qui se créent avec des valeurs qui sont différentes. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment y croire et faire son chemin, sans trop écouter sur les côtés, parce que sinon on s'en sort pas. Et puis voilà, être amoureux de son produit. Je pense que c'est la meilleure garantie et rester authentique. Pas trop faire de marketing, mais si, voilà, de l'authenticité.
De l'authenticité. En tout cas, vous en avez tous les trois, de l'authenticité, et vos produits aussi. Gonzague Lablanchisserie, cofondateur des pulls Au Juste. Corinne Gothic, présidente des ateliers PRH et de la marque Blanc Bonnet, directrice de la marque Blanc Bonnet. Et Sophie Grégoire, présidente d'Aniel. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur Europe 1. Merci.
Il est 13h38.
Europe 1.
On va rester ensemble et s'intéresser à une entreprise qui existe depuis 1904 dans la Loire. C'est Linder, elle est familiale, elle aussi, c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 et tous les jours, Raphaël Duchemin. Nous découvrons une entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, elle fabrique des voilages, des rideaux et des tissus.
Et cette entreprise est toujours dans la même famille depuis 1904. Bonjour Virginie Linder.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. À vos côtés, il y a Elisabeth Assayag. Et puis juste en face de vous, notre coach aujourd'hui, c'est Bertille Burel, fondatrice et présidente de Wonderbox. Vous êtes la directrice générale de Linder. C'est votre arrière-grand-père, c'est ça qui est fondateur Célestin.
Célestin qui était ingénieur textile, qui arrivait de la Suisse et qui est arrivé à Lyon parce qu'il avait un ami à Lyon qui lui a dit il y a du travail en textile, parce qu'il n'y avait pas de travail en Suisse à l'époque. Et c'est là que l'histoire a commencé en 1904, où il a acheté ses premiers métiers à tisser. Et à l'époque, ils ont commencé à tisser de la soie. Pour les soyeux lyonnais.
Alors, ils ne s'installent pas à Lyon, ils s'installent dans la Loire, à Violet, c'est ça ?
Oui, Violet, voilà, c'est un petit village à 40 km de Lyon, où il y avait à l'époque beaucoup, beaucoup de tisseurs qui tissaient pour Lyon, quoi.
L'usine va prospérer, il y a énormément de travail, et puis après, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive, la Seconde. Ça a tenu, ça a bien résisté pendant les deux guerres.
Oui, c'est vrai que le parcours n'a pas été linéaire, parce que ils ont d'abord tissé de la soie. Ils ont continué à tisser pendant la Première Guerre mondiale. L'usine ne s'est pas arrêtée parce que, comme il était suisse, il n'a pas été mobilisé. Donc, il a continué à maintenir son entreprise avec les femmes et ils ont continué à tisser.
Et vous dites les femmes, c'est important parce que ça a été aussi une grande révolution. Il y a eu une caisse d'entraide pour aider les familles seules. C'était une révolution.
C'était complètement précurseur parce qu'il avait inventé cette caisse d'entraide qui était, les salariés cotisaient et le patron, je crois, doublait la mise pour après aider les salariés ou les femmes qui étaient seules ou après pour les maladies ou tout autre chose, quoi.
Alors, on va faire un bond dans le temps parce que votre père est important aussi dans l'histoire de l'entreprise. Je crois que c'est lui, dans les années 80, qui a une idée assez géniale, assez nouvelle aussi, c'est de faire un rideau de couleurs. À l'époque, on dit, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette idée ?
C'est vrai que c'était un peu... il me l'a souvent raconté, c'était un peu fou comme histoire parce qu'on faisait du voilage depuis plusieurs années. Et mais le voilage, à l'époque, la décoration, c'était blanc ou écru. Hein, il y avait un voilage, c'était que blanc ou écru. Puis c'était dans les années 90, début des années 90, ils ont fait un truc un peu fou. Ils se sont dit, on va faire des rideaux jaunes, bleus, rouges, oranges. C'était
impensable.
C'était complètement audacieux, quoi. Et on l'a fait, ils l'ont fait. Et ça a été un succès. Et c'est vrai que c'était le début de l'histoire des rideaux en couleur.
Ah, puis c'est l'arrivée aussi du prêt-à-poser dans les magasins.
Exactement. L'avènement de la décoration. Et oui, c'est vrai que maintenant, décorer sa maison, c'est pas réservé à une élite ou à des gens. Enfin, tout le monde a envie d'avoir le bon jaune moutarde, le bon vert canard dans son salon, quoi.
Vous avez combien de coloris chez vous aujourd'hui ?
Oh là là, c'est énormément. On a à peu près 10 000 références. Donc,
Et vous avez 6 000 clients. La plupart, ce sont des professionnels.
Oui, on ne travaille qu'en B2B. On ne travaille pas avec les particuliers.
Et alors, vos usines, elles sont en France ?
Oui, elles sont en tissu, sont faites du Made in France. Donc,
Tarare, Saint-Marcel-des-Félines.
Voilà, c'est ça, en région lyonnaise. Et on a un atelier de tissage, une usine de teinture. On a aussi notre confection en propre, où on fait tout le sur-mesure.
Oui, dans ces usines, vous formez aussi vous-même vos salariés ?
Oui, si vous voulez, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des savoir-faire en tissage. Il n'y a plus d'école de tissage. Donc, de plus en plus, on est amené à recruter des gens et à les former, quoi.
Que dit notre coach, Bertille ? Voyez, on est encore dans le tissage.
Oui, je suis très impressionnée parce que, d'autant plus que dans mon histoire familiale, je suis issue d'une famille de soyeux. Et évidemment, la soirée a fait faillite. Donc, chapeau, parce que j'ai lu votre histoire et l'innovation et... En permanence, vous rebondissez avec
c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui nous anime au quotidien, c'est d'inventer des nouvelles collections, des nouveaux dessins, des nouveaux jacquards, trouver des innovations, des choses qui vont intéresser nos clients, quoi.
Et vous avez une nouveauté d'ailleurs, voilà. Vous avez un rideau anti-pollution.
Voilà, dépolluant.
Dépolluant, oui.
Donc on a mis...
Deux ans de travail. Hein.
Ouais, on a mis ça au point dans notre atelier de teinture. Et l'idée, c'est... on incorpore un principe actif dans le rideau au moment de la teinture. Et quand le rideau va être suspendu dans votre pièce, il va détruire tous les, ce qu'on appelle les COV, les composants organiques volatiles, comme les formaldéhydes, la molécule est cassée.
Et comme les fumées de cigarettes, par exemple.
Par exemple, les fumées de cigarettes, les bougies, ou alors tout ce qui vient des colles, des solvants, des meubles, etc.
Ça met combien de temps à détruire
Alors nous, les tests qu'on a fait, que le laboratoire a fait, c'est sur 72 heures. Et en 72 heures, 90% des COV sont détruits.
Et ça y est, ce rideau est commercialisé.
Ouais, ça y est, vous pouvez le trouver dans en grande surface de bricolage ou dans les magasins qui vendent du tissu au mètre.
Combien de salariés aujourd'hui chez vous, chez Linder ?
170.
170 salariés qui travaillent pour cette belle entreprise qui va bien. Merci, merci. Virginie Linder d'être venue nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Une plateforme pour échanger son HLM. C'est la ville de Paris qui en a eu l'idée. C'est la solution sélectionnée au trophée Europe 1. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et avec, comme chaque jour, juste avant 14h, la solution du jour qui va peut-être faciliter la vie de nombreuses personnes en HLM.
Oui, vous savez qu'on continue à vous parler des trophées de l'avenir d'Europe 1. Le 11 février, c'est la cérémonie. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez cette initiative de la ville de Paris. Il s'agit d'une plateforme qui permet d'échanger son logement social à Paris.
Oui, ça s'appelle Échanger Habiter. Les locataires parisiens du parc social peuvent, depuis quelques semaines, échanger leur appartement via une plateforme d'échange en ligne. Ça arrive avec l'arrivée d'un enfant parfois ou un nouvel emploi. On peut être amené à vouloir changer d'appartement quand on est locataire. Sur les 720 000 demandes de logement social enregistrées en région parisienne en 2017, 30% sont des demandes de mutation qui viennent d'environ 200 000 foyers. Et échanger de logement social, eh bien, jusqu'à présent, c'était loin d'être évident. Donc, pour faciliter le processus, la ville de Paris, l'association des organismes de logement social d'Île-de-France, ainsi que 12 bailleurs qui représentent plus de 224 000 logements à Paris, ont lancé cette première plateforme d'échange de logements sociaux entre locataires.
Bonjour Yann Brossard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes en charge du logement, adjoint à la ville de Paris. Comment ça vous est venu cette idée justement d'échange de logements ?
Pour une raison toute simple, je suis un élu, je tiens une permanence les vendredis après-midi dans ma mairie d'arrondissement et j'étais régulièrement confronté à des habitants qui vivaient en HLM mais qui avaient envie de changer de logement social et qui galéraient. Qui attendaient parfois 3 ans, 4 ans. Parfois, on leur faisait des propositions qui, au final, ne correspondaient pas à leurs attentes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer un système plus souple qui leur permette de trouver satisfaction plus rapidement.
Alors, quelles sont les étapes pour accéder à ce nouveau logement ? Si, par exemple, on est locataire d'un HLM, d'un deux pièces et que la famille s'agrandit ?
Alors, il faut que vous fassiez une demande de logement social, bien sûr, en bonne et due forme, comme d'habitude. Mais ce que nous vous proposons avec ce site Échanger Habiter, c'est que vous mettez une petite annonce. Et donc, vous décrivez votre logement actuel, vous mettez des photos, les plus belles photos si possible, parce qu'il faut que d'autres, du même coup, en aient envie. Et puis, vous trouvez quelqu'un qui propose un logement qui serait susceptible de vous correspondre et donc vous matcher.
Ouais, c'est particulier à particulier finalement,
exactement.
En quelque sorte.
C'est un peu le Tinder du logement social. Il faut que vous cherchiez quelqu'un avec qui vous puissiez matcher. Voilà.
Et alors donc, vous avez déjà des retours, j'imagine, puisque ça fait quelques semaines que ça a été mis en place.
Exactement.
Ça fonctionne bien.
Ça a été mis en place depuis le mois d'octobre et nous avons eu 5000 personnes qui ont mis une petite annonce. Et il y a déjà environ 80 dossiers qui vont aboutir à un échange. Donc ça prend évidemment du temps parce qu'il faut que les gens d'abord trouvent le logement qui leur correspond, se fassent visiter mutuellement leur logement et puis au final remplissent un dossier qui est soumis ensuite au bailleur social puisqu'il faut quand même vérifier si le logement correspond aux ressources, si vous aurez les moyens de payer le loyer. Donc tout ça marche et marche plutôt bien. Et en tout cas, ça a considérablement facilité les choses.
Et vous allez étendre ce dispositif ça existe déjà en Savoie, il faut le dire, à Montreuil. Mais est-ce que vous allez l'étendre dans toute la France ?
Oui, donc pour l'instant, ça marche à l'échelle de Paris. Et donc notre volonté, c'est de l'étendre à l'échelle de toute l'Île-de-France à partir du printemps 2019.
Ah oui, très rapidement.
Donc
alors.
Les choses avancent et l'idée, c'est qu'un maximum de personnes puissent
en
profiter.
Parce que là, ça concernerait potentiellement combien de personnes en Île-de-France ?
Aujourd'hui, 200 000 logements et demain, 500 000 logements si on s'y met partout en Île-de-France.
Une question de notre coach, Bertil Burel.
Oui, alors je trouve l'idée absolument géniale de faire de particulier entre particuliers. Et ça économise de l'argent à l'État et je trouve ça génial. Mais j'avais une question qui est, si je comprends bien, normalement les loyers des logements sociaux sont indexés sur votre revenu. Comment ça se passe du coup, puisque vous échangez votre appartement, mais vous ne connaissez pas le loyer que vous allez payer?
Si, vous connaissez quand même le niveau du loyer, puisque... en principe, vous postulez sur un logement dont vous savez que vous pourrez le payer. Mais vous avez raison de le dire. Ensuite, tout cela est soumis à une autorisation du bailleur social, puisqu'il revient au bailleur social, sur la base de votre avis d'imposition, de vérifier que vous êtes bien dans les clous. Donc c'est la raison pour laquelle c'est souple, mais c'est quand même soumis à l'autorisation du bailleur, parce que ce sont quand même des logements qui sont financés sur fonds publics et qu'ils doivent donc profiter à des gens qui ont besoin d'un logement social et pas à des gens qui ont des salaires mirobolants.
D'accord, mais le loyer ne dépend pas du revenu de l'occupant ?
Si, parce qu'en fait, vous avez trois catégories de logements sociaux dans notre pays qui correspondent à trois typologies de ménages. On a des logements sociaux pour des ménages très fragiles, des logements sociaux traditionnels et des logements sociaux plutôt à destination des classes moyennes. Donc, il faut que vous postuliez sur un logement qui correspond à votre catégorie.
Plateforme qui fait travailler combien de personnes ? Ce sont des gens essentiellement de la ville de Paris qui sont avec vous derrière?
Non, ce sont les bailleurs sociaux eux-mêmes
qui gèrent
et donc il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire.
Donc, plateforme qui fonctionne, qui va être étendue, et ça c'est une information que vous nous donnez à toute l'Île-de-France très bientôt, plateforme d'échange de location HLM qui va rendre évidemment beaucoup de services à tous ceux qui résident dans ces habitations à loyer modéré. Merci beaucoup Yann Brossat d'être venu nous en parler. Sélectionné, hein, on le rappelle, au Trophée de l'Avenir d'Europe 1. Vous pouvez d'ailleurs continuer à voter, je vous le rappelle, jusqu'à vendredi soir 23h59 dans la catégorie coup de cœur. Allez-y sur le site europe1.fr. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez votre coup de cœur pour ces trophées de l'avenir. La réponse, ce sera le 11 février avec la cérémonie. Merci Bertil Burel d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
C'était votre première
vous.
En tant que coach. Nous, on se revoit
demain.
Elisabeth, on parlera méditation, aromathérapie à la française bien sûr, à l'occasion du salon bien-être et médecine douce.